Alors lui, il avait confirmé sa présence, il est même revenu de ce congrès mondial AIDS 2026. Un congrès, donc, on fait le point sur les avancées et les reculs concernant le VIH ou SIDA dans le monde. Alors ça se tenait à Rio de Janeiro. On a quand même eu l'annonce de nouveaux cas de rémission. Et pour discuter de tout ça, nous recevons le Dr Jean-Pierre Routy, hématologue et chercheur principal au Centre universitaire de santé McGill. Donc, Dr Routy, bonjour, bienvenue à Canal M.
Oui, bonjour.
Alors, c'est un plaisir de vous recevoir, Dr Routy. Deux nouveaux cas de rémission du VIH après des greffes de cellules souches. Qu'est-ce que nous apprennent ces guérisons exceptionnelles sur la recherche d'un traitement accessible à grande échelle?
Alors, il confirme que c'est possible. Ça fait maintenant 11 personnes qui sont officiellement, disons, guéries par les critères d'aujourd'hui de la science. Ils ont arrêté leur trithérapie pendant 2-3 ans et le virus n'est pas revenu et n'est pas détectable à travers les prises de sang, les biopsies. Donc, c'est une très grande victoire parce que beaucoup disaient qu'au niveau du cerveau, on n'arriverait jamais à enlever le virus de cellules assez dormantes qui entourent les nerfs. Et donc, finalement, c'est possible. Donc, ce sont de grandes victoires. Cependant, les greffes de moelle sont faites uniquement chez des gens qui ont des leucémies ou des cancers qui ont échoué au traitement standard de ces maladies. Et c'est en troisième ligne que les greffes de moelle ont lieu, et le plus souvent avec du sang non infectable. Donc, c'est une personne sur 500. Qui a une particularité, c'est que le deuxième récepteur pour que le virus entre dans les cellules est modifié, et donc ce sang n'est pas infectable. Et si on a un sang qui est à la fois compatible avec le receveur et le donneur, et qui a cette particularité d'être ininfectable, eh bien, dans la plupart des cas, quand l'ensemble du sang est changé, on arrive à une guérison.
Ouais, ça semble très complexe et très particulier. Et je comprends qu'on est loin là, d'avoir un traitement qui serait applicable à tous. Là.
Tout à fait, parce que après la greffe, il faut prendre des médicaments immunosuppresseurs qui sont beaucoup plus toxiques que ceux de la trithérapie ou de la bithérapie. Donc, c'est simplement une sorte de leçon. Enfin, pour les personnes obligées à cause de cancer, c'est excellent. Maintenant, pour les autres, pour la population des personnes vivant avec le VIH, c'est seulement une leçon de dire que c'est possible, et c'est à nous, aux chercheurs, en association avec les groupes communautaires, à trouver des études, à trouver des stratégies plus douces, plus pointues, plus focalisées, pour essayer d'enlever ces cellules sans trop abîmer la personne.
Alors, Dr Routy, vous présentiez vous-même des travaux sur l'immunothérapie et le rôle de l'immunométabolisme dans le contrôle du virus. Alors, comment ces approches inspirées de l'oncologie permettent-elles de cibler là, les réservoirs où se cache le VIH?
Oui, alors donc, c'est un nouvel espoir. Il y a à la fois ce qu'on appelle l'immunologie, c'est la fonction des cellules, mais on s'aperçoit que les cellules doivent manger, évidemment, soit du gras, soit de la viande, soit du sucre, et que selon le choix ou la liberté de choix de ces cellules, la réponse antivirale est plus ou moins bonne. Et on sait que les personnes qui contrôlent le VIH sans médicaments, ce qu'on appelle les élites contrôleurs, eux utilisent plutôt le gras et les acides aminés, dans ce qu'on appelle un peu l'autophagie, c'est-à-dire un système un peu écologique qui brûle pas tout et qui va doucement, par rapport à des personnes VIH ou des personnes cancéreuses, ou autour de la tumeur, ou dans l'immunité des VIH qui reçoivent des bi- ou des trithérapies, on utilise préférentiellement le sucre. Et on sait qu'à long terme, c'est-à-dire passer 3 semaines, ce type de nutrition au niveau cellulaire est moins performant que d'avoir une alimentation variée. Si vous voulez, ce que nous disent les diététiciens au niveau de notre corps est vrai finalement au niveau cellulaire. Et ce que j'ai présenté, c'est certains facteurs qui régulent l'habileté de prendre du gras par la cellule pour répondre efficacement à une infection, eh bien, peut être modulé. Donc, pour l'instant, nos travaux sont au laboratoire, mais ouvrent la porte à des modèles de souris où l'on peut bloquer cette protéine et qui peut performer ou remettre, si vous voulez, en place un système où à la fois la réponse immune et la façon de nourrir les cellules qui doivent se multiplier, donc manger beaucoup et fabriquer des membranes cellulaires, se multiplier, eh bien on pourrait optimiser ce combat anti-VIH.
Alors, ce sont des avancées hyper intéressantes, Dr. Routy. Le problème maintenant, on va aller vers les reculs, si vous voulez. Les récentes coupes dans les financements internationaux, et on ne parle pas seulement des États-Unis, l'Europe, le Canada aussi l'ont fait. C'est compliqué tout ça, ça complique la recherche, ça complique aussi la survie des personnes atteintes du VIH.
Absolument, on a montré que ce soit dans beaucoup de pays, et là c'était focalisé sur l'Amérique latine, mais que l'ensemble des coupures limitées, il y avait fermé, certains centres ont fermé, des personnes ont perdu leur emploi. Donc la qualité du suivi, la mise en place du dépistage, l'accès aux médicaments universels, eh bien, a diminué par rapport à l'an dernier. Donc ça, c'est une grande tristesse. Et donc, il y a un certain nombre de cas qui sont calculés d'augmentation de nouvelles infections, de nouvelles transmissions, parce que l'économie mondiale va mal, qu'il y a des pays en guerre, et qu'évidemment, ça ne devient pas la première des priorités. Une petite note d'espoir, c'est qu'il y a maintenant des liens directement entre les pays du Sud, c'est-à-dire l'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, avec l'Afrique du Sud, donc des liens qui passent pas forcément par l'Occident du Nord, et il y a quelques espoirs de collaboration, mais qui viennent à des niveaux économiques et à des restrictions de budget, mais il y a quand même des possibilités, c'était le thème du congrès, c'est-à-dire de repenser, de redémarrer, d'approcher les réponses globales de façon nouvelle, évidemment, avec moins d'argent qui vient des pays du Nord.
Je fais encore une parenthèse sur les États-Unis parce qu'on sait, dans une autre maladie qui s'appelle la rougeole, qui est en hausse fulgurante là-bas parce que les gens ne se font plus vacciner, il y a comme une espèce de vision de la santé et qui gêne beaucoup, et les États-Unis, donc, qui contribuent de moins en moins à la lutte et du moins au traitement ou à l'aide pour les personnes vivant avec le VIH dans le monde. Il n'y a pas un risque de voir le VIH augmenter, c'est-à-dire de voir de plus en plus de cas à cause de cette situation-là?
Oui, de l'attitude anti-vaccin, la réponse contre le professeur Anthony Fauci,
ça, c'est épouvantable, oui.
Kennedy Junior, que j'ai écouté hier sur CNN, mais c'est absolument horrible, et d'un être qui n'a aucune connaissance, qui ne sait même pas lire un article en entier, ose dire que des études n'ont pas été faites, que pour le vaccin de la rougeole, peut-être, mais on n'est pas sûr, et que l'autisme pourrait être associé, on n'en sait toujours rien, alors que 1,3 million, dit la journaliste, qui a été très courageuse, d'études, enfin sur une population d'1,3 million, aucune augmentation, et c'est sûr que de laisser parler un homme aussi puissant par sa position politique et dire des énormités de ce calibre, j'espère que l'histoire s'en rappellera et que justice sera faite.
Et moi, j'ai l'impression que ça va déverser dans la lutte contre le VIH aussi, ce genre d'attitude-là.
Oui, et puis c'est surtout une attaque même qui peut être physique contre le professeur Fauci, qui a été quand même le grand visionnaire de la réponse du sida, de l'immunologie du sida depuis 30-40 ans. Et là, il est probablement menacé de mort par tous ceux qui écoutent ces discours complètement inimaginables pour une société démocratique et intelligente quand même par ailleurs. C'est incroyable.
Je sais que je sens en vous cette grande passion parce que vous êtes passionné par votre travail. Je vous connais depuis longtemps et je sais que c'est très important pour vous. Comment décriveriez-vous la situation ici au Québec, au Canada, pour le VIH?
Je pense qu'il y a un certain moins d'intérêt dans le sens où la maladie est quand même contrôlée. La plupart des gens vivent relativement bien en prenant un comprimé par jour et certains des piqûres tous les deux mois. Ceci dit, le stigmate, la difficulté quand on rencontre quelqu'un d'annoncer son statut de VIH, cette marque indélébile reste très fort, malgré que l'état de santé se rapproche de plus en plus des personnes n'ayant pas le VIH. Donc tout ce progrès est là. et il faut maintenir ça et que les gens ne se découragent pas. C'est sûr que pour l'instant, les traitements sont à vie et c'est évidemment difficile à l'échelle d'une vie de ne pas avoir des crises, des moments d'abattement, de découragement. Et donc, il y a certaines personnes qui arrêtent ou qui n'osent toujours pas le dire ou pas rencontrer des gens en ayant honte. Et ce stigma reste quand même très fort et doit être combattu.
Et ça nous amène donc à parler de la sérophobie qui semble, comme l'homophobie, comme le sexisme, en hausse, des études démontrent ça d'ailleurs, ça non plus, c'est pas une bonne nouvelle pour lutter contre le VIH.
Non, ce qui fait énormément de peine, c'est que ce sont les pays africains qu'on a quand même tellement défendus et par le fait de leur couleur de peau, de leur origine géographique. Et maintenant, c'est les gouvernements de ces pays qui disent que dans l'esprit de décolonisation, l'homosexualité est un apport des colons français ou anglais. Et de voir que les pays disent on met en prison les gens homosexuels et ceux qui les soignent au nom de la décolonisation. Et c'est en ça où c'est très difficile de répondre, où même l'intervention de gens de bonne volonté est quand même repoussée par une attitude de certains pays. De plus en plus de pays en Afrique ont changé leurs lois, les ont durcies dans cette culture de décolonisation. Et donc, c'est très difficile pour la société internationale du SIDA de répondre et d'avoir un discours contre ces politiques-là.
Docteur Auti, d'abord, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je sais que vous êtes rentré ce week-end seulement de Rio et d'avoir pris le temps d'expliquer à nos auditeurs, auditrices, la situation. Puis au plaisir de se parler bientôt.
Avec plaisir.
Alors, c'était Docteur Jean-Pierre Auti, qui est hématologue et chercheur principal au Centre universitaire de santé McGill.